France Info.
Bonjour Guy Balavoine.
Bonjour.
Vous êtes l'un des trois grands frères de Daniel Balavoine, le frère de cet artiste qui manque toujours autant, près de 40 ans après sa disparition survenue le 14 janvier 86 au Mali, à la suite du crash d'hélicoptère en marge de la course mythique du Paris-Dakar. Guy, vous ne vous êtes jamais remis de ce drame. Vous avez d'ailleurs mis 10 ans avant de pouvoir rechanter, car vous êtes également chanteur.
Oui.
Je précise que vous étiez son choriste attitré sur scène. Aujourd'hui, vous avez accepté de remonter sur scène aux côtés des techniciens et des musiciens qui ont toujours accompagné votre frère pour lui rendre hommage. Le spectacle s'intitule Balavoine, ma bataille. Vous serez en tournée dans toute la France dès le 14 janvier à Alençon, jusqu'au 14 février avec une date à La Roche-sur-Yon et une date importante à organiser au Dôme de Paris au Palais des Sports le 22 janvier 2026. Je précise aussi qu'une partie des fonds sera reversée à l'association Cap Solidaire International qui œuvre pour l'accès à l'éducation, la santé et à l'autonomie dans les zones les plus fragilisées du monde. L'occasion donc de réentendre ou de découvrir ou redécouvrir les chansons de Daniel, réenregistrées et rejouer tel qu'il les aimait sur scène. Est-ce le manque incommensurable qui vous a donné envie à tous d'organiser, de créer ce spectacle ?
Écoutez, moi je ne suis pas à la base du spectacle. C'est Pierre-Nicolas Cléret qui, à l'âge de 23 ans, a appris la mort de Daniel et il s'est garé et il a pleuré. Il voulait vraiment faire quelque chose pour Daniel. Il ne le connaissait pas à l'époque. Moi, on m'a contacté parce que Pierre-Nicolas a entendu une chanson que j'avais écrite, mais que j'ai mis 10 ans à écrire. J'ai tout de suite accepté parce que ce spectacle, c'est finalement prolonger Daniel avec des jeunes voix de maintenant et je pourrais être leur grand-père à tous. Ou presque. Ça m'a beaucoup plu, cette façon de faire. Et j'ai tout de suite dit oui. Voilà. Et je suis heureux parce que ça fait 20 ans que je n'avais plus chanté. Et je suis très heureux de retrouver Daniel dans ces conditions-là.
Je voudrais que vous me parliez de cette chanson que vous avez écrite pour lui.
Il avait fait partir avant les miens et il est parti avant les siens. Et moi, ma chanson s'appelle « Pour un petit supplément d'âme » et ça commence quand il est parti avant les siens. C'est en écho, c'est pas une réponse, c'est un écho sur cette chanson qui nous avait frappé à l'époque et nous l'avait présenté en famille et ça nous avait un peu bouleversé et on s'attendait pas à ce que un an et demi après, il disparaisse.
Je voudrais qu'on parle de lui, de Daniel Balavoine, vous qui avez été son grand frère. Il est parti à l'âge de 33 ans, issu de cette famille originaire des Landes et du Pays Basque. Il était le benjamin de cette famille de 7 enfants.
Oui.
Vous aviez 6 ans quand il est entré dans votre vie. Vous vous rappelez de son arrivée à la maison ?
Oui, on était en Normandie. Mon père avait été nommé en Normandie après la Deuxième Guerre mondiale, donc pour la reconstruction de la Normandie. Le petit, c'est lui le tout petit, parce qu'il y en a eu un avant qui est mort d'une méningite. Et Daniel est arrivé après, et je vais vous faire une confidence. Depuis qu'il était petit, on l'appelait Bibiche. Et jusqu'à sa mort, on l'a appelé Bibiche.
Il a très mal vécu d'apprendre justement qu'il était né un an après la disparition de Xavier, d'une méningite foudroyante.
Oui.
Il a eu très longtemps le sentiment d'avoir été l'enfant de substitution, entre guillemets.
Oui, le remplaçant.
Le remplaçant, et ça a été quelque chose qu'il a toujours suivi dans sa vie.
Oui, c'est vrai qu'il avait été marqué, il disait « je suis le remplaçant ». Et c'est vrai que c'est un peu difficile à vivre, mais on l'a tous aimé tout de suite, alors bon. Mais ça l'a poursuivi quand même, oui. Cette histoire d'être le remplaçant.
Votre père était ingénieur en urbanisme et il a beaucoup travaillé d'ailleurs pour le ministère de la Reconstruction. Votre mère était antiquaire. Ils se sont séparés alors que vous n'aviez vous que 12 ans et Daniel 6 ans. Ça, c'est quelque chose qu'il n'a pas forcément très bien vécu non plus, de vivre chez votre père.
D'autant plus que ma mère nous a mis tous en pension. Daniel avait 7 ans, elle l'a mis en pension et pas loin de là où elle habitait. La pension, ça l'a beaucoup marqué et c'est vrai que la séparation correspond avec cette période où il a été mis en pension, comme tous mes frères et sœurs. Et donc,
sauf que lui, il était encore un peu plus petit, donc il avait encore moins de...
Oui, il avait
du mal à comprendre.
Ah oui, lui, il avait des difficultés à comprendre. Vous savez, se retrouver tout seul à 7 ans, alors qu'il comprenait pas très bien pourquoi il se retrouvait là. Après, moi, j'étais en pension avec lui aussi, on s'est retrouvés. J'ai toujours été, alors vous dites que j'étais son choriste, mais On a monté des groupes aussi, je n'étais pas que son choriste.
Justement, je voudrais qu'on en parle, parce qu'au départ, il était tout petit, et un peu, limite, vous le repoussiez en vous disant, bon, écoute, laisse-nous jouer, on est sérieux, nous, on est grands.
Et oui, donc, d'autant plus qu'avec un de mes frères, Yves, on était au Petit Chanteur de la Croix-de-Bois. Donc, on avait une formation classique, et finalement... Moi, il m'a fait découvrir les Beatles, les Rolling Stones. On chantait déjà, hein, Hugo Frey, bon, des choses comme ça. Mais c'est vrai que quand il voulait chanter avec nous, on lui disait « Non, non, Bibi, je tais-toi, tu gâches la chose. » Bon, alors, il nous en voulait un peu de ça, hein, mais bon, petit à petit, on a été sur la même longueur d'onde. Après, il a appris à bien chanter. J'avais mon frère aîné aussi, qui était auteur-compositeur-interprète à Bordeaux, pendant qu'il faisait sa médecine, ses études de médecine. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on a marié les origines de notre goût pour la musique. Ma mère était pianiste aussi, j'ai une tante qui était organiste. Bon, alors donc on a toujours été un peu là.
On a oublié que Daniel, il a commencé en tant qu'effectivement chanteur de bal, hein. Ça a duré plus de trois ans, c'est comme ça qu'il a fait ses armes, il a peaufiné le travail de sa voix.
Oui, après, mais c'est vrai qu'il a fait partie d'un orchestre de bal, mais lui il faisait la partie rock, et il y avait, par contre, l'autre partie qui faisait du passo doble et des comme ça. Bon, c'était pas dans ses goûts. Mais c'était intelligent de la part du chef d'orchestre d'avoir quand même permis une ouverture sur le rock alors qu'il jouait des morceaux classiques pour la danse, des slow, des passodobles, du tango. C'était pas tellement la direction de Daniel, ça.
Il a rapidement acquis une notoriété, hein, là où vous viviez. Quel rapport il a entretenu avec cette notoriété ?
Une fois, quelqu'un lui a demandé s'il avait pris la grosse tête. Il a dit oui, un petit peu, mais ça m'a vite passé. Vous voyez, par exemple, sa notoriété, il savait la gérer quand on était à Biarritz, puisqu'on habitait Biarritz, ou à Saint-Jean-de-Luz. Une fois, il était avec un Baby Relax, qu'on appelait Baby Relax, avec Jérémy, son fils, et les gens le croisaient, tout le monde lui souriait, mais personne ne lui tapait sur le ventre ni dans le dos. Et il avait cette façon de garder les distances, mais modestement, c'était toujours gentil. Et les gens, malgré ses colères et ses emportements et tout, il a quand même dit des choses effroyables, comme j'emmerde les anciens combattants, c'était un peu rude. Mais les gens, ils parlaient de quelqu'un de gentil et de doux. Et pourtant, ils se mettaient en rogne, quoi. C'était...
Comment vous avez vécu justement toutes ces, entre guillemets, sorties de route, enfin en tout cas ces prises de parole en public, quand il a dit effectivement « j'emmerde les anciens combattants », quand il s'en est pris au président de la République, ouvertement et directement d'ailleurs. Votre père avait été, il était parti en Algérie, à Tizi Ouzou, enfin voilà, c'est quelqu'un qui connaissait tout ça. Comment vous le viviez en famille ? Est-ce qu'il y avait des échanges houleux également avec lui quand il
rentrait ? Non, moi j'ai toujours été très proche de lui. J'ai toujours été avec lui. Par exemple, on avait une maison à Pau de 4 chambres, et Daniel et moi, on était toujours dans la même chambre. C'est une proximité qu'on avait, c'était presque charnel, quoi, finalement. C'était bon, mon ami, d'ailleurs, c'est ce que je dis, c'était mon ami aussi dans la chanson que je fais. Le petit bonhomme qui a fait mon nom joli, voilà. Et je pense que c'est vrai. Il nous a amené quelque chose quand même de très important. Et cette ouverture sur le monde, alors qu'on était nous, on avait une formation classique. Lui, il a tout de suite réagi contre. Mais on a tous été comme ça. Et on a toujours bien pris. À part ma mère, qui trouvait que c'était scandaleux ce qu'il disait. Moi, ça me faisait tant de rire, hein, je vous le dis franchement. Moi, je trouvais ça formidable. Je trouvais que c'était bien. C'était bien.
Un jour, il a décidé d'aller tenter sa chance à Paris. Il est parti faire un casting. C'est lui qui a été effectivement pris pour intégrer le groupe Présence. Son premier 45 tours n'a pas réellement bien fonctionné. Mais ce qui en ressort, c'est que très rapidement, la maison de disques, qui était la maison de disques Vogue, lui a dit « Il faut que tu te fasses confiance, tu es fait pour être chanteur solo. » Il a mis du temps à prendre cette décision-là, j'ai l'impression.
Oui, il a décidé effectivement de chanter seul. Il était très créatif. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, Michel Berger et Jean-Jacques Goldman, peut-être ne s'en souvient-ils pas, disaient « le plus doué des trois, c'est Daniel ». C'est vrai que lui était très créatif, il pouvait aller dans tous les sens, et il disait toujours en plus, il y avait toujours quelque chose d'intelligent dans ses chansons. C'était jamais de la bluette, rappelle-toi Minette, machin, truc. Ça l'a jamais intéressé. Et il y avait toujours quelque chose dans ses chansons. C'était pas, comme il disait, je lance pas des messages, mais il disait, il était d'une sincérité terrible, il n'avait peur de rien. Il y avait certains qui lui disaient, fais attention pour ta carrière et tout ça. Il dit, mais si plus personne veut de moi, je ferai autre chose. Voilà. C'était aussi réglo que ça.
Et en même temps, quand on écoute la chanson L'Aziza, c'est une énorme déclaration d'amour.
Ouais.
Mon fils m'a bataille aussi. Finalement, ses émotions le poussaient à retranscrire ça sur le papier et à les communiquer auprès du public.
Ah oui, oui, oui.
C'était
oui,
son moyen d'expression, la chanson.
Ah oui, 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 oui. Je discutais avec Francis Cabrel une fois et je lui dis, tu sais Francis, c'est quand Daniel m'a téléphoné un jour et il m'a dit, j'ai entendu un Toulousain, il n'est pas Toulousain, mais il enregistrait à Toulouse, c'est merveilleux. Et Cabrel m'a dit, bah tu sais, moi j'allais au concert de Daniel pour voir la présence qu'il avait sur scène. Moi j'aime beaucoup Francis Cabrel en plus, mais Goldman aussi, Berger, France Gall. France Gall qui disait, vous voyez, qu'il chantait des chansons quand même qui étaient dures et tristes, elle disait « C'est l'homme qui m'a fait le plus rire dans ma vie ». Alors qu'elle connaissait Coluche, mais Daniel la faisait beaucoup rire, voilà.
Il a été tout de suite repéré aussi pour des opéras rock. Ça a été ça aussi la force de Daniel. Il y a eu la Révolution française de Claude-Michel Schoenberg.
Ensemble, on l'a fait. Daniel.
Voilà, et puis c'est là où vous avez commencé à travailler réellement ensemble avec ce Palais des Sports de Paris.
Oui.
Là, vous allez, au cours de cette tournée, vous retrouver le 22 janvier au Palais des Sports de Paris.
Oui,
au Dôme
oui.
de Paris, du coup. J'imagine l'émotion que vous devez ressentir.
Oui, moi, ça m'a fait quelque chose. D'ailleurs, je me souviens qu'à la fin du spectacle de la Révolution française, on est allé se rhabiller et quand on est sorti des loges, ils étaient en train de détruire tout ce qu'ils avaient fait, qu'on avait chanté pendant un mois. Et il y avait toujours 5000 personnes. Moi, ça m'avait fait mal au cœur de voir ça. Et je vais retrouver le Palais des Sports, si vous voulez, avec plaisir. Parce que c'est vrai que c'est une partie de notre vie. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et on a connu, là, à cette époque-là, Hervé Christiani, Dany, Bachung. Tous ces gens-là, on les a connus à ce moment-là.
Bah, la voix de ma bataille, c'est aussi ça. Hein. C'est une promesse qu'il n'a pas pu honorer, celle de monter sur scène comme annoncé juste avant sa disparition. Je me posais la question de savoir s'il n'y avait pas un souhait aussi de conjurer le sort à travers cette tournée, et notamment en ce qui vous concerne de reprendre une conversation avec l'homme et l'artiste qu'il était et que le temps n'a pas réussi à interrompre.
Je pense qu'il aurait fait une carrière internationale. Il avait rencontré Mick Jagger qui n'avait pas bu que du petit lait, qui était dans un triste état. Si vous voulez, il avait été en Angleterre et il avait dit, en France, j'ai fini, je ne ferai pas mieux en France, et il avait pris un batteur australien, un guitariste anglais. C'était une autre direction qu'il prenait. Et ça s'est arrêté là. C'est bien dommage.
Balavoine, ma bataille, c'est aussi un trait d'union finalement entre celles et ceux qui l'ont connu, qui s'identifient à lui, comme le créateur justement de ce spectacle, et une jeune génération qui ne l'a pas connu. Il adorait transmettre. C'est aussi ça, c'est aussi peu raviver sa mémoire et ce qu'il aimait mettre en avant, ce spectacle.
Oui, et ce qui m'a plu, moi, justement, quand il m'a plu, il dit, ça s'appelle Balavoine ma bataille, et comme le titre préféré des Français, c'est Mon fils ma bataille. Et d'avoir collé ma bataille avec le nom de Balavoine, et ben j'ai trouvé que c'était formidable.
Ce qui est assez fou, c'est que vous en parlez, et quand on lit ce spectacle-là, on a l'impression qu'il est toujours en vie, qu'il n'a pas disparu, de par le répertoire qu'il nous a laissé, et de par aussi ses sorties de route, entre guillemets, ses prises de parole. Il a laissé la trace d'un homme qui s'est battu jusqu'au bout, et effectivement, ce titre, Ma Bataille, en est un beau résumé.
Oui, et ce que j'aime bien, c'est que cette jeune génération qui chante maintenant, ils chantent à leur manière, ils ne font pas d'imitation. Pierre-Nicolas Acléré leur a expliqué ce que disait Daniel. Il faut écouter les paroles, parce que Daniel, vous savez, je me présente, je m'appelle Henri, et les gens, après, ils remuent les fesses, et puis c'est tout ce qu'ils font. Hein. C'est... Alors que s'ils écoutaient vraiment la chanson, il se rendrait compte qu'il n'avait que 24 ans et qu'il avait déjà vu une carrière de chanteur, c'est-à-dire un début, je veux réussir, comme ça, la gloire, et après, la fin. Comme un peu Maurice Chevalier, tous ces gens-là qui ont dit, et ils disaient, je veux mourir malheureux pour ne rien regretter, et c'est une très belle phrase.
Il a laissé, j'ai l'impression aussi... plein d'espoir, du fait qu'il ne fallait jamais s'arrêter de combattre. Vous avez toujours été très important pour lui, puisque vous lui avez montré effectivement l'importance de soutenir celles et ceux qui n'avaient rien. Est-ce que c'est pas la plus belle victoire et la plus belle récompense, celle-ci ?
Ben si. Nous, Daniel, ça a été aussi une récompense, hein, parce qu'on était versés. Et de le voir réussir comme ça, ça a été formidable pour nous. J'ai jamais été envieux vis-à-vis de Daniel, vous savez. Il y avait, chez Barclay, il y en avait qui me disaient « Mais tu as du talent, pourquoi tu n'enregistres pas ?» Et je leur répondais « Je sais que j'ai du talent, et maintenant, avec toi, on est deux à le savoir. » Je ne l'ai jamais envié, j'ai toujours été derrière lui, quoi. Et on avait convenu que je ne chantais pas sur scène avec lui, j'étais son grand frère, donc il ne pouvait pas être mon employeur et moi son employé. Et donc on a travailler en studio. Les albums, on les a faits, mais sur scène, je n'y étais pas.
Ce qui est étonnant, c'est que dans la chanson que vous interprétez, vous le considérez un peu comme un enfant.
Oui,
comme
je dis...
cet enfant qui est parti avant vous, alors que vous êtes son grand-père.
Voilà, mais je dis, je crois qu'on souffre autant seulement quand on perd un enfant. Et c'est vrai, parce qu'il est quand même resté... On l'appelait Bibiche. C'était encore l'enfant, c'était le dernier, quoi.
La tournée a lieu donc dans toute la France. Il est un peu avec vous, justement, sur scène, quand vous commencez à interpréter ses chansons.
D'ailleurs, je dis à la fin, à chaque fois que je rentre en scène, avec moi, je l'amène. Il est là et je crois que le public aussi le sent. Vous savez, ça a été un choc pour la France, sa disparition. Je suis très étonné d'ailleurs que 40 ans après, et je vois un des jeunes chanteurs a pris une chanson qui est de 77, ce qui est quand même étonnant. Moi, je leur ai dit, vous restez dans l'esprit de Daniel, vous chantez comme vous voulez, parce que chacun amène sa façon de chanter. Mais je lui ai dit, n'oubliez pas une chose, articulez bien. Que vous compreniez ce que vous chantez, c'est bien, mais surtout, il faut que le public le comprenne.
Quel est votre titre préféré de Daniel ?
Tous les cris, les SOS, c'est un chef-d'œuvre. Vous avez l'enfant assis, attend la pluie. C'est incroyable ce qu'il a fait. Il a fait 8 albums en 10 ans. C'est stupéfiant. Il était le plus prolifique à l'époque. C'était celui qui sortait le plus de choses et il en avait toujours en réserve. Hein.
Merci Guy Balavoine d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info. Vous êtes toujours ce grand frère avec cet esprit très paternel et son premier fan, c'est ce qu'on entend. Il nous manque toujours autant 40 ans après sa disparition. Les concerts hommage, c'est donc une tournée dans toute la France. Balavoine, ma bataille, avec un passage le 22 janvier au Dôme de Paris, au Palais des Sports et ensuite cette tournée qui démarrera à Alençon le 14 janvier prochain et qui se terminera à La Roche-sur-Yon donc le 14 février. Merci beaucoup.
Ils nous ont gâtés parce qu'ils nous ont mis 28 concerts en 31 jours. On va passer notre vie sur la route.
Comme il le faisait lui-même. Merci beaucoup.
Comme un fou va jeter à la mer des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers SOS écrit avec de l'air pour te dire que je me sens seul. Je dessine à l'encre vide un désert et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent comme des lianes nouées de tresses sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Difficile d'appeler quand tant de drames nous oppressent et les larmes nouées de stress étouffent un peu plus les cris d'amour de ceux qui sont dans la faiblesse et dans un dernier espoir disparaissent. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Pris dans leur vaisseau de verre, les messages. échanger les héros dans un monde où